Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, emplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse cette divine consolation pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers amis, mes bien chers frères, nous en sommes au chapitre 11 de Saint Jean, verset 41, donc sous le polycopier qui contient l'explication donnée par les Pères de l'Église pour les chapitres 11 à 15. Nous en sommes à la page 7, en haut de la page. Nous terminons la résurrection de Lazare. D'abord avec les versets 41 à 46. Voilà le texte. Ils enlevèrent donc la pierre. Et Jésus, levant les yeux en haut, dit « Père, je vous rends grâce que vous m'avez écouté. Pour moi, je savais que vous m'écoutez tous les jours, mais je parle ainsi à cause du peuple qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est vous qui m'avez envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, venez dehors. » Aussitôt, le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et de Marthe, qui avaient vu ce qu'avait fait Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce qu'avait fait Jésus. Et là, il y a un passage très important. Donc, notre Seigneur vient de faire un de ses plus grands miracles. Il va ressusciter Lazare, non seulement qui était mort, mais qui était mort et depuis 4 jours déjà dans la tombe. Eh bien, deux versets importants. Le verset 45 qui dit que beaucoup qui avaient vu ce qu'avait fait Jésus crurent en lui. Donc les gens se convertissent en voyant le miracle accompli par notre Seigneur. Mais il y a le verset 46 qui suit. Cependant, quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce qu'avait fait Jésus. Donc, en fait, ces pharisiens vont préparer la mort de notre Seigneur. Donc, le même miracle provoque deux réactions complètement opposées. Une réaction de conversion pour ceux qui cherchent le vrai. Et pour ceux qui haïssent le vrai, une réaction de refus du vrai. Donc, une réaction d'amour du Christ d'un côté, une réaction de haine du Christ de l'autre. Le Dieu Sauveur a moins égard à sa dignité qu'à notre salut. Aussi nous parle-t-il très peu de ses grandeurs et toujours d'une manière voilée, tandis qu'il s'étend avec complaisance sur ses humiliations. Donc notre Seigneur montre davantage son humanité que sa divinité. On voit très bien pendant le temps de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, surtout pendant la Passion, mais même avant, que notre Seigneur va cacher sa divinité. De temps en temps, ils veulent la faire ressortir, par exemple, lorsqu'il fait des miracles. Mais c'est toujours voilé derrière son humanité. Au moment de la transfiguration, au sommet du mont Tabor, devant Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, il va dévoiler une toute petite partie de sa divinité, mais il ne se montre jamais dans l'éclat de sa divinité. Et on sent très bien que Dieu agit par petites touches pour convertir les âmes, mais qu'il exige une participation des âmes. Il faut que les âmes acceptent d'ouvrir la porte pour que notre Seigneur puisse rentrer dans ces âmes. Notre Seigneur ne va pas rentrer dans une âme en contraignant l'âme à le recevoir. Il frappe, puis il attend. Il y a des âmes qui l'acceptent, des âmes qui le refusent. On voit très bien ça aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Donc la voix forte du Sauveur qui ressuscita Lazare est le symbole de cette trompette éclatante qui doit se faire entendre à la résurrection générale. Le Sauveur élève la voix pour fermer la bouche aux gentils qui prétendent sans aucun fondement que les âmes des morts sont dans les tombeaux. Et il appelle à haute et forte voix l'âme de Lazare comme étant absente très loin. Donc c'est évidemment la résurrection de Lazare ici est un symbole de la résurrection générale. Lazare venait dehors. Un jour, tous les hommes entendront ce même ordre, qui s'adressera directement à chacun d'entre nous. Et moi aussi, un jour, je devrais sortir dehors, sortir du tombeau après ma mort, à la fin des temps, à la fin du monde. Il y aura une résurrection générale. C'est l'Église qui l'a toujours enseigné. Et donc ceci doit encore nous faire comprendre une chose, c'est que actuellement notre Seigneur cache sa divinité, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Un jour viendra où la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ va être éclatée aux yeux et aussi tout le monde. Tout le monde va le voir. À la fin des temps, notre Seigneur Jésus-Christ va venir sur les nuées du ciel avec la croix et les 12 apôtres pour juger les vivants et les morts. Et là, tout le monde sera obligé de reconnaître sa divinité, de reconnaître son autorité, de reconnaître sa royauté. Donc actuellement, on a l'impression que Dieu laisse les gens libres de l'accepter ou non, mais le jour de la résurrection générale, les gens ont perdu cette liberté. Il n'y aura plus la liberté d'accepter ou non notre Seigneur. On sera tous obligés d'accepter, de reconnaître sa divinité. Et à ce moment-là, ce sera trop tard, parce que si je ne suis pas en état de grâce au moment de la mort, eh bien, je vais devoir payer le prix fort. Alors voyons un petit peu ce qu'expliquent les pères. Le symbole derrière cette résurrection de Lazare. Lazare sortant de son tombeau, le symbole de l'âme qui se retire des vices de la chair. L'âme est la forme du corps, l'âme qui contrôle le corps. Donc d'un côté, vous avez la force de l'âme et de l'autre côté, vous avez la faiblesse de la chair qui est représentée par le corps. Donc la résurrection de l'âme symbolise, la résurrection, pardon, du corps symbolise le fait que l'âme va de nouveau prendre contrôle complet du corps en question, du corps qu'elle anime. Donc la résurrection représente la conversion personnelle. L'âme se retire des vices de la chair. On était enfermé dans les trois concupiscences, concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil. Et l'âme se retire des vices de la chair au moment précis où elle accepte d'obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Lazare venait dehors. L'âme sort du tombeau et donc sort des griffes, des chaînes qui l'empêchaient d'agir. Des trois chaînes, si vous voulez, de l'orgueil, surtout les chaînes tout ce qui tourne autour de l'orgueil, c'est les chaînes des trois concupiscences. Les bandelettes dont il reste encore enveloppé nous apprennent que ceux-là même qui ont renoncé au plaisir charnel et veulent obéir de cœur à la loi de Dieu ne peuvent, tant qu'ils sont dans ce corps mortel, être entièrement à l'abri des atteintes de la chair. Il faut que Dieu lui-même nous libère de ces bandelettes. On voit qu'il y a en fait un double miracle. Un miracle très très fort, la résurrection de Lazare, mais un autre miracle qui est beaucoup plus discret derrière, le fait que notre Seigneur Jésus-Christ va faire sortir Lazare du tombeau, mais il est enveloppé par ses bandelettes. Il avait les pieds et les mains liés de bandes. Et là, il y a un deuxième miracle. Parce que quand on a les pieds et les mains liés, comment voulez-vous pouvoir sortir? Donc notre Seigneur donne l'ordre, Lazare venait dehors et le mort sortit. Donc là, il y a un deuxième miracle. Premier miracle, la résurrection de Lazare. Deuxième miracle, il sort alors qu'il a les mains et les pieds liés. Notre Seigneur montre bien qu'il est ainsi non seulement maître des âmes, mais aussi maître des corps. Ces bandelettes, donc, marquent, manifestent que nous aurons à lutter contre les tentations de la chair qui maintiennent le corps dans un état d'esclavage. Eh bien, la résurrection de Lazare représente le fait qu'on devient maître de ces tentations et qu'au lieu d'être esclave de ces tentations, eh bien, on oblige ces tentations, en quelque sorte, à nous quitter parce qu'on prend contrôle de ces tentations. Le suaire, troisième point, dont sa figure est couverte, signifie que nous ne pouvons avoir dans cette vie la pleine intelligence de la vérité. Donc, on a, si vous voulez, les yeux en quelque sorte embués, on ne peut pas voir. C'est pour ça que notre Seigneur va cacher sa divinité pendant toute sa vie terrestre. On est comme, si vous voulez, avec des lunettes noires devant le nez qui nous empêchent de voir la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le suaire qui fait une espèce de barrière entre la réalité extérieure et nos yeux, ce suaire représente justement cette impossibilité dans laquelle nous sommes de comprendre ici-bas, d'avoir ici-bas la pleine intelligence de la volonté, de la vérité. Quatrième point, notre Seigneur ajoute, déliez-le, laissez-le aller, pour nous apprendre qu'après cette vie, tous les voiles seront enlevés, afin que nous puissions voir Dieu face à face. Encore une fois, c'est une allusion à la fin des temps, à la résurrection générale. Là, tout le monde sera obligé d'enlever ce voile, ce suaire qui nous couvre, et nous serons obligés de reconnaître à ce moment-là la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez un petit peu la terreur de ceux qui ont lutté toute leur vie contre notre Seigneur Jésus-Christ et qui, le jour du jugement général, vont être obligés de voir ce Dieu qu'ils ont détesté pendant toute leur vie, contre lequel ils ont lutté avec une apparente facilité, avec une apparente victoire. Ils ont lutté constamment contre ce Dieu et d'un seul coup, ce Dieu leur apparaît. Imaginez un peu leur confusion. Je pense souvent à ça quand on a tendance un peu à se décourager en voyant tous ces politiciens autour de nous qui utilisent leur pouvoir politique, leur pouvoir financier, leur pouvoir électoral pour tout détruire, détruire, tout casser. Il ne faut pas oublier qu'un jour, ces mêmes politiciens seront obligés d'apparaître devant Dieu. Et cette fois-ci, leur or et leur pouvoir politique, leur pouvoir électoral, tout cela n'aura plus aucune valeur devant Dieu. Donc il faut voir d'ailleurs cette résurrection de Lazare, donc un symbole très important. La résurrection de Lazare représente notre propre résurrection, c'est-à-dire représente notre propre conversion. Ou bien encore, disent les pères, lorsque vous faites mépris et de la loi de Dieu, vous êtes comme mort et enseveli dans le tombeau. Et si vous faites l'aveu de vos fautes, vous sortez de ce tombeau. Car sortir du tombeau, c'est sortir de la retraite cachée dans son cœur pour se produire au grand jour. Donc cette résurrection est aussi le symbole de la confession. Cette résurrection spirituelle, résurrection de Lazare qui reprend le contact avec son corps et qui permet, l'âme qui reprend, si vous voulez, le total contrôle du corps, représente les retrouvailles d'une âme avec son Créateur après au moment de recevoir l'absolution. Donc la personne qui rentre dans le confessionnal en état de péché mortel représente Lazare qui est lié avec les bandelettes, qui a les pieds et les mains liés, qui ne peut pas bouger, il est mort. Depuis 4 jours déjà, il est dans le tombeau, ça fait longtemps qu'il est là. Il est en train de pourrir sur place. Notre Seigneur Jésus-Christ donne l'ordre, Lazare sort dehors, ce sort dehors représente l'absolution. Je t'absous de tous tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ego te absolvo peccatis tuis. Eh bien, lorsque le prêtre prononce ces paroles, je t'absous de tous tes péchés, eh bien, c'est la libération du mort. Le mort retrouve la vie. Et donc, un pécheur qui était livré dans le péché mortel, qui se confesse avec humilité, avec la contrition, avec l'accusation, avec la réparation, eh bien, elle va retrouver la vie spirituelle. C'est pour ça que la vie ici-bas est un combat constant pour justement ressusciter d'entre les morts. Et donc, oui, il y a beaucoup de symboles qui sont derrière. Donc, la résurrection de Lazare, le grand symbole, c'est le symbole de notre conversion personnelle. La conversion personnelle, très souvent, passe par l'intermédiaire de l'absolution sacerdotale. Donc, cette résurrection de Lazare représente aussi la sortie du péché par l'absolution qu'on reçoit au confessionnal. Mais c'est Dieu qui vous amène à faire cet aveu en vous appelant à haute voix, c'est-à-dire par une grâce extraordinaire. Le mort qui sort du tombeau est encore lié. De même que celui qui confesse ses péchés est encore coupable. C'est pour le délier de ses péchés que Jésus dit au serviteur, déliez-le et laissez-le aller. C'est-à-dire, tout ce que vous avez délié sur la terre le sera au ciel. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de penser que Dieu obéit à l'ordre du prêtre. Tout ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel. C'est-à-dire, si le prêtre ne peut pas délier quelqu'un du péché, parce que cette personne qui se confesse à lui n'a aucun regret, par exemple, de ses fautes, ou garde une occasion prochaine volontaire de péché grave et ne veut pas s'en couper, eh bien, il est évident que dans ce cas-là, il ne peut pas recevoir l'absolution sacerdotale. Mais lorsque une personne se présente avec une véritable contrition, c'est-à-dire une véritable accusation, un véritable regret de ses péchés, une douleur interne, surnaturelle, universelle, souveraine de ses péchés, eh bien, à ce moment-là, il va pouvoir entendre la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui non seulement donne le premier ordre, déliez-le et laissez-le aller, mais qui donne le premier ordre, Lazare venait dehors, mais qui donne le deuxième ordre, déliez-le, laissez-le aller. Il y a deux points. Premier point, résurrection, Lazare venait dehors. Deuxième point, libération totale des bandettes qui l'empêchaient de marcher. Les bandettes aux pieds et aux mains, déliez-le et laissez-le aller. Donc Lazare venait dehors, première étape de la conversion. Et pour que la conversion soit complète, il ne s'agit pas simplement que Lazare est ressuscité d'entre les morts. Il faut aussi que les bandes qui liaient les pieds et les mains soient enlevées. Déliez-le, laissez-le aller. Ça, c'est l'absolution, si vous voulez, totale. Donc, Lazare venait dehors, première étape, on s'agenouille au confessionnal, on regrette ses péchés, on a déjà reçu la grâce de la contrition interne de nos péchés, déliez-le et laissez aller. Le prêtre, par l'absolution sacerdotale, va délier cette âme qui retrouve sa pleine liberté de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Autre symbole, cette fois-ci Saint Augustin, en bas de la page 7. La voix forte du Christ représente la voix de l'archange, le jour du jugement, qui réveillera tous les morts. Oui, on retrouve ici le même symbole. La résurrection de Lazare représente la résurrection à la fin des temps. D'une part, la représente deux résurrections en fait. Une première résurrection que par la sortie du confessionnal, mais une deuxième résurrection encore beaucoup plus éloignée à la fin des temps. Donc notre Seigneur Jésus-Christ s'adressera à nous, nous sommes allongés devant lui, nous sommes paralysés, il va falloir sortir du péché, et c'est à nous de le faire ici-bas. Et si on attend la fin de notre vie pour cela, si on attend le jugement particulier, eh bien c'est trop tard. À ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ nous appellera. Et il va nous dire, rends compte de ta gestion. Et si je ne suis pas en état de grâce au moment de ma mort, c'est trop tard. Et cette condamnation va être renouvelée à la fin des temps avec la résurrection générale. Donc c'est le symbole de la voix de l'archange qui, au jour du jugement, la trompette sonnera et tous les corps seront réunis aux âmes. Une résurrection générale, quelque chose d'absolument ahurissant. Oui. La voix du Christ signifie également la force de la grâce par laquelle le pécheur qui est rappelé des habitudes mauvaises dans lesquelles il est enterré pour entrer dans la vie nouvelle de la grâce. Réveillez-vous, vous qui dormiez, ressuscitez de la mort et le Christ vous donnera la vie. Donc, tant qu'on n'est pas jugé par notre Seigneur Jésus-Christ, il est toujours possible pour nous de sortir du péché et retrouver cette union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut demander vraiment cette grâce de ne pas être sourd à cet appel. Donc c'est la force de la grâce qui fait tout le travail. N'oubliez pas que vous pouvez vous présenter au confessionnal, mais si vous n'avez pas reçu une grâce par laquelle vous avez au moins la contrition imparfaite de vos péchés, c'est-à-dire le regret de ces péchés à cause de la peur de l'enfer, une confession ne vaut rien. Parce que sinon, ça va être une confession, une contrition qui ne sera pas surnaturelle. La contrition doit être surnaturelle pour être valable. Une contrition purement naturelle de ses péchés n'a aucune valeur. Donc il faut un minimum de contrition, qu'on appelle la contrition imparfaite. Regarde ses péchés par peur de l'enfer. Et si je reçois l'absolution avec une contrition imparfaite, je regarde mes péchés par peur de l'enfer, et bien l'absolution va transformer cette contrition imparfaite en une contrition parfaite. Je rentre au confessionnal avec un regret de mes péchés par peur de l'enfer, et je sors du confessionnal avec un regret des péchés par amour de Dieu. Et tous mes péchés sautent. Et n'oublions pas, Pâques, un acte de contrition parfaite, qui est une grâce extraordinaire que Dieu ne donne pas à tout le monde, hein, que Dieu peut nous donner, eh bien cet acte de contrition parfaite efface tous les péchés, même sur l'absolution sacerdotale. Ça représente ça le même effet qu'une absolution sacerdotale. Un acte de contrition parfaite, non seulement efface tous les péchés, mais efface aussi les peines temporelles, les péchés déjà pardonnés, c'est-à-dire les peines du purgatoire. Donc, cette sortie du tombeau représente l'entrée dans la vie nouvelle de la grâce. Le tombeau représente le péché. La résurrection, la sortie du tombeau, donc ces deux ordres, Lazare sortait dehors, déliez-le et laissez-le aller, représente le passage, si vous voulez, de l'état de péché à l'état de grâce. Et non seulement la résurrection, mais également la délivrance des peines temporelles. À savoir, la deuxième phrase, déliez-le, laissez-le aller. Donc Lazare venait dehors, première ordre de notre Seigneur à Lazare, représente la première résurrection, si vous voulez, mais il reste encore les peines du purgatoire à payer. Deuxième ordre, déliez-le et laissez-le aller. Là, c'est les bandes qui représentent les peines du purgatoire qui vont aussi sauter. C'est pour ça que quand quelqu'un se fait une bonne confession avec un haut degré de contrition, eh bien non seulement l'absolution va effacer tous les péchés, mais peut aussi dans certains cas effacer une partie, voire même la totalité des peines du purgatoire pour les péchés déjà pardonnés. C'est ce qu'on peut obtenir aussi par une indulgence plénière. Une indulgence plénière efface tout, quand elle est reçue avec de bonnes dispositions, bien sûr, elle va effacer toutes les peines temporelles des péchés déjà pardonnés, toutes les peines du purgatoire. En bas de la page 7, un texte de Saint Grégoire le Grand. Le Seigneur ressuscita une jeune fille dans sa maison. Le jeune homme hors de la porte de la ville, mais Lazare dans le sépulcre. Première résurrection, la jeune fille, elle est ressuscitée, est encore sous son lit mortuaire. Deuxième résurrection, le fils de la veuve de Naïm, il est ressuscité, ce jeune homme, alors que son corps est déjà porté au cimetière. Troisième résurrection, Lazare, Saint Lazare, c'est-à-dire cette fois-ci, c'est encore plus flagrant, parce que le corps est déjà dans le sépulcre. Donc le mort dans la maison représente celui qui est tombé secrètement dans le péché. Alors là, il y a plusieurs explications des pères qui montrent la gradation. J'en ai déjà plusieurs fois parlé, mais c'est un passage très important chez les pères. Donc il y a une gradation, si vous voulez. On va lentement passer à une purification de plus en plus parfaite. Vous voyez, première résurrection, le pécheur est encore sur son lit. Deuxième résurrection, le pécheur est porté au tombeau. Troisième résurrection, le pécheur est déjà dans le tombeau. Ça explique que notre Seigneur Jésus-Christ est maître de la mort dans les trois cas. Alors, certains pères disent que la première résurrection, la résurrection de la jeune fille dans sa maison, représente le péché mortel de faiblesse qui est délivré. Deuxième résurrection, le jeune homme hors de la porte de la ville, le fils de la veuve de Naïm, représente le péché de malice, péché mortel de malice, qui peut être aussi pardonnable par notre Seigneur. Troisième résurrection, Lazare dans le sépulcre, c'est le vice. Donc Dieu a pouvoir sur le péché mortel de faiblesse, sur le péché mortel de malice et sur le vice. Donc première chose, le mort dans la maison, donc c'est la morte, c'est une jeune fille, la mort dans la maison représente celui qui est tombé secrètement dans le péché. Bon. Deuxièmement, celui qui est déjà aux portes de la ville, le fils de la veuve de Naïm, et celui dont le péché passait à la connaissance de tous. Là, le péché est allé au grand jour. Parce qu'il y a un scandale qui a été donné, tout le monde a vu ce qu'on a fait, a compris ce qu'on a fait. Troisième résurrection, Lazare, celui qui est dans le tombeau, symbolise le pécheur habitudinaire, c'est-à-dire le vice. Donc vous voyez, donc, celui qui est tombé secrètement dans le péché, c'est le péché mortel de faiblesse. Deuxième résurrection, le péché est passé à la connaissance de tous, c'est le péché mortel de malice. Troisième résurrection, le péché habitudinaire, c'est-à-dire le vice. Dans les trois cas, notre Seigneur Jésus-Christ peut ressusciter dans tous les morts. C'est très important pour que nous ne nous décourageons jamais, jamais, jamais se décourager, parce que Dieu a le pouvoir de sortir qui il veut du péché. Alors, en bas de la page 7. Par ses grâces, sa grâce divine, le Christ les rappelle tous les trois à la vie et illumine par sa clarté non seulement le pécheur privé, mais aussi ceux dont les péchés sont connus et celui qui est oppressé par les mauvaises habitudes, celui qui est dans le vice. Seulement, il faut comprendre que il faut une application de la grâce de Dieu beaucoup plus importante pour corriger un vice que pour corriger un péché mortel de faiblesse. Qu'est-ce que c'est qu'un péché mortel de faiblesse ? C'est un péché qui est mortel parce que il y a la matière grave, il y a la connaissance, le consentement, mais c'est un péché mortel de faiblesse parce que ça se voit tout de suite, parce qu'une personne qui tombe dans le péché mortel de faiblesse n'a qu'un désir, après être tombé dans ce péché, c'est de se confesser immédiatement. Il regrette tout de suite ce qu'il a fait. Et il court partout pour trouver un prêtre et se confesser. Au contraire, le péché mortel de malice, la racine du péché s'est enfoncée bien plus profondément dans l'âme et c'est beaucoup plus difficile à couper. Le péché mortel de vice, hein, c'est encore plus grave parce qu'on se complaît, on s'est complu dans le péché pendant tellement longtemps qu'on n'a plus envie d'en sortir. Et le bon Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, donne les trois grâces à ces trois niveaux de péché. Il donne la grâce à ceux qui sont tombés dans le péché de faiblesse pour qu'ils aillent se confesser tout de suite. N'oublions pas qu'après un péché mortel de faiblesse, pour aller se confesser, il faut déjà une grâce du bon Dieu. Hein. Parce que Dieu seul donne la contrition. On ne peut pas avoir la contrition par soi-même à la force du poignet, c'est impossible. Donc dans les trois cas, c'est Dieu qui donne la grâce de s'en sortir. Donc par sa grâce divine, le Christ rappelle tous les trois à la vie, illumine par sa clarté non seulement le pécheur privé, mais aussi celui dont les péchés sont connus et celui qui est oppressé par les mauvaises habitudes. Donc ne jamais, jamais se décourager. Passons à la page 8, en haut de la page. Le Christ envoie les pécheurs avec leurs pieds et mains bandés aux évêques et aux prêtres pour qu'ils soient libérés et absous. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Cela se traduit par la phrase « Laissez-le ». Déliez-le et laissez-le aller. Donc, encore une fois, il y a une allusion nette au tribunal de la pénitence, à la sainte confession. Déliez-le et laissez-le aller, ça veut dire on enlève tous les péchés et on enlève les liens du péché qui restent après l'absolution du péché. Le péché est pardonné par l'absolution, mais il reste encore les peines temporelles des péchés déjà pardonnés, les liens du purgatoire. Et bien, ces liens sont complètement détruits si Dieu, après le premier ordre, Lazare venait dehors, donne le deuxième ordre, dédiez-le et laissez-le aller. Encore une fois, ce n'est pas suffisant de se confesser, il faut encore enlever le deuxième lien, qui est le lien qui va nous obliger à subir les peines du purgatoire. Bon, me dire, mais c'est déjà pas mal d'avoir le premier lien qui saute, c'est sûr, mais le premier lien qui saute, ça n'empêche pas qu'il reste le deuxième lien. Et il ne s'agit pas de se dire, bon, ça suffit, je suis libéré du péché, j'aurais peut-être des siècles et des siècles la passion purgatoire, mais ce n'est pas grave, attention, les peines du purgatoire sont épouvantables. Certains pères vont jusqu'à dire que les peines du purgatoire sont identiques à la peine de l'enfer, sauf qu'au purgatoire, il n'y a pas de peine du dent. Il n'y a pas de... On sait qu'un jour on va être sauvé, mais c'est un petit peu dangereux, à mon avis, de dire les choses comme ça, parce que à partir du moment où on est en enfer, on a cette peine du dent. Et la peine propre de l'enfer, c'est la peine du dent. Donc, si quelqu'un n'a pas la peine du dent, on ne peut pas dire à ce moment-là que les peines dans lesquelles il est sont semblables à celles de quelqu'un qui est en enfer. Vous voyez. Les pères ne sont pas d'accord là-dessus. Mais là, je pense que c'est un passage très important. Donc, il faut vraiment qu'on y pense souvent en tant que catholique, hein, qu'il ne s'agit pas simplement d'aller se confesser, d'appliquer le pouvoir des clés du prêtre à mon âme, mais il faut encore que je puisse, avec la grâce du bon Dieu, non seulement quitter le confessionnal avec mon péché effacé, mais également en ayant les peines du purgatoire qui ont sauté au moins en partie. C'est pour ça que, pendant les retraites de Saint-Ignace, eh bien, on ne confesse pas immédiatement, on attend 2 jours et demi. Avant les confessions, 2 jours complets avant les confessions, pour que justement le degré de contrition augmente de telle façon que les gens, au moment où ils se confessent, peuvent avoir non seulement le pardon de leurs péchés, mais également la destruction des peines temporelles des péchés, c'est-à-dire des peines du purgatoire. Avançons avec les versets 47 à 53 du chapitre 11 de Saint Jean. Page 8. Les princes, les prêtres et les pharisiens assemblèrent donc le conseil et disaient « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Car si nous le laissons agir, ainsi tous croiront en lui. Et les Romains viendront et ruineront notre ville et notre nation. » Mais l'un d'eux, nommé Caïphe, qui était le grand prêtre de cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien, et vous ne réfléchissez pas qu'il vaut mieux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse point. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler d'un seul corps les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Et à partir de ce jour, ils pensèrent donc à le faire mourir. Oui. Encore une fois, j'insiste sur ce point, donc, un miracle devant des centaines de personnes. Certains utilisent ce miracle pour se convertir. C'est le verset 45. Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et de Marthe, qui avaient vu ce qu'avait fait Jésus, crurent en lui. Mais certains, hélas, ont refusé la grâce, ont refusé l'entrée de la grâce sanctifiante dans cet homme. Et c'est le verset 46. Quelques-uns d'entre aller trouver les pharisiens, leur dire ce qu'avait fait Jésus. Et le verset 40 suivant, le verset 47, explique que ils ont constaté que cet homme fait beaucoup de miracles. Mais au lieu de se dire, puisqu'il fait tous ces miracles, c'est qu'il a le pouvoir divin, non. Au lieu de se convertir, il s'inquiète. Sinon, laissons agir ainsi, tous croiront en lui, les Romains viendront, ruinons notre ville et notre nation. On voit qu'ils sont tellement aveugles que malgré un miracle aussi extraordinaire que la résurrection de Lazare, on peut dire que c'est le plus grand miracle de notre Seigneur, après, évidemment, sa propre résurrection. C'est le plus grand miracle de notre Seigneur. Eh bien, malgré la grandeur extraordinaire, la puissance extraordinaire de ce miracle, ils ne se convertissent pas. Voilà ce qui nous attend. Si la grâce du bon Dieu nous quitte, attention. N'oublions pas que lorsque nous perdons la foi, si la grâce du bon Dieu nous quitte, même si on a conservé la foi, mais qu'on a eu un péché mortel pendant extrêmement longtemps, on finit par devenir complètement aveugle. Regardez Sainte Marie-Madeleine, qui ne reconnaît même plus notre Seigneur Jésus-Christ. On voit ça avec les disciples d'Emmaüs, avec aussi les apôtres, au moment de la dernière multiplication des poissons, la deuxième pêche miraculeuse. Eh bien, ils ne reconnaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pourtant sur la berge, qui les appelle « Enfants, avez-vous du poisson ?» Alors, voyons un petit peu les commentaires des pères sur ce passage, au milieu de la page 8, dans le sens analogique. Rappelez-vous, je rappelle que le sens analogique, c'est le sens eschatologique, c'est-à-dire un passage de la Sainte Écriture représente ce qui se passera à la fin des temps. Dans le sens analogique, les gentils prirent la place du peuple de la circoncision parce que leur chute est devenue le salut des gentils. Les Romains sont mis ici, à la place des gentils, c'est-à-dire de ceux qui avaient l'empire à la place, qui avaient l'empire à la place de ceux qui leur étaient soumis. Leur nationalité fut aussi détruite, car le peuple qui avait été le peuple de Dieu cessa de l'être. Donc, les Juifs vont devenir esclaves des choses matérielles, et donc, ils vont perdre cette union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et un transfert. C'est très important à comprendre, les pères en parlent très souvent, le transfert du peuple juif au peuple catholique. Alors, bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le peuple juif. N'oubliez pas que la plupart des premiers catholiques étaient des juifs convertis. Notre Seigneur Jean-Marie était des juifs de nationalité, juifs de race, juifs de croyance. Tous les premiers saints, à commencer par son époux Saint-Joseph, et tous les saints étaient tous des juifs. Ils vont de religion juive, ils pratiquaient la religion juive, et avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, ils vont reconnaître le Messie, et notre Seigneur Jésus-Christ va leur permettre de changer sur les deux religions, de passer de la religion juive à la religion catholique. Alors, malheureusement, il est possible de faire le chemin inverse. Il est possible, il y a tout un symbole derrière. On peut passer de la religion juive à la religion catholique, mais on peut aussi passer de la religion catholique à la religion juive. Qu'est-ce que c'est ? Quel est le symbole qui est derrière ? Le symbole est tout simple. Quand je passe de la religion juive à la religion catholique, c'est-à-dire que je quitte le péché pour retrouver la vérité, l'Église catholique, et quand je passe de la religion catholique à la religion juive, j'abandonne la vérité pour suivre le péché. Donc je peux sortir du tombeau, passage de la religion juive à la religion catholique, mais je peux aussi retourner dans le tombeau, passage de la religion catholique à la religion juive. J'ouvre la porte du tombeau et je me remets dedans pour de nouveau me retrouver esclave du démon par le péché. C'est ainsi que Caïphe ne dit rien de lui-même et ne pense point faire une véritable prophétie, parce qu'il ne comprend pas le sens prophétique des paroles qu'il prononce. Rappelez-vous ces paroles, il vaut mieux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple que la nation entière ne périsse point. Tels étaient ces prétendus docteurs de la loi dont parle saint Paul, qui n'entendent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Voyez combien grande est la puissance de l'Esprit Saint qui peut faire sortir d'un esprit corrompu un oracle prophétique. Donc, il est arrivé qu'il y ait eu des prophéties qui ont été faites par des ennemis de l'Église. Vous voyez, là, c'est le cas de Caïphe. Donc, il va prophétiser que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ est le symbole de l'homme qui meurt pour tout le peuple. Et en fait, c'est ce qui va se passer. Notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort, va mourir pour le peuple entier. Donc Dieu est capable, parfois, d'obtenir des miracles, même de gens, même sur des gens qui n'ont pas la foi. On le voit dans certains cas particuliers. Moi, j'ai eu un exemple, il n'y a pas très longtemps, d'une personne qui a été convertie dans un lieu de fausse apparition. Apparition de Mère de Gorge, c'est qu'il y a une fausse apparition. Eh bien, ils sont allés, ces gens sont allés dans ce lieu d'apparition, se sont convertis en priant le rosaire, réapprenant à prier le rosaire, reprenant contact avec la prière de la Sainte Vierge Marie, se sont convertis, ont fait une bonne confession générale, et puis à ce moment-là, se sont rendus compte, de la grâce du bon Dieu, bien que le Mère de Gorge était une fausse apparition, donc ont quitté cette fausse apparition pour vraiment rentrer complètement dans l'Église catholique. Donc le bon Dieu est capable d'utiliser ce qu'on appelle tentation sous apparence de bien. Le bon Dieu, si vous voulez, de même que, expliquons ça comme ça, de même que le démon est capable d'utiliser des choses bonnes pour obtenir quelque chose de mauvais, le bon Dieu est capable d'utiliser même quelque chose de mauvais pour obtenir quelque chose de bon. Nous, on ne peut jamais faire ça, mais le bon Dieu peut le faire parce qu'il est Dieu. Donc, le bon Dieu, par exemple, peut utiliser une maladie qui est strictement parlant en soi quelque chose de mauvais, il peut utiliser une maladie mortelle, un cancer par exemple, pour aider une âme à se convertir. Et si cette âme n'avait pas été atteinte par la maladie mortelle, elle ne se serait pas sans doute convertie. Et Dieu est maître de la vie et de la mort. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour les mourants, parce que c'est le moment clé. Et pas forcément une bonne chose d'essayer d'enlever systématiquement toutes les souffrances des mourants, parce que ces souffrances peuvent être aussi un moyen de purification extraordinaire. Voyez aussi la grandeur et la vertu du pouvoir pontifical. Caïphe est le grand prêtre, tout indigne qu'il est, de cet honneur, et il prophétise sans savoir ce qu'il dit. La grâce ne s'est servie que de ses lèvres et n'effleura même pas le cœur de cet homme profondément corrompu. Donc il va dire une chose qui est vraie, il vaut mieux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple, mais il reste dans le péché. Il reste dans le péché. C'est terrible quand on voit des gens comme ça, qui s'aperçoivent, qui voient une partie de la vérité, mais qui restent quand même dans le péché parce qu'ils ne veulent pas se convertir complètement. Voyons les derniers versets de ce chapitre 11 de Saint Jean, les versets 54 à 57. C'est pourquoi Jésus ne se montrait plus ouvertement parmi les Juifs, mais il s'en alla dans une région voisine du désert, dans une ville nommée Éphrem. Il demeurait là avec ses disciples. Or la Pâque des Juifs était proche, et beaucoup montèrent de cette région à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient donc Jésus et disaient les uns aux autres, debout dans le temple, que pensez-vous de ce qui n'est pas venu à la fête? Et les princes, les prêtres et les pharisiens avaient donné ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on le saisît. Oui, donc ces princes, les prêtres, ces pharisiens, ces scribes, toutes ces autorités politiques, ces autorités religieuses, eh bien, ne se convertissent pas malgré le miracle extraordinaire. Et ça doit vraiment nous faire réfléchir. Parce que c'est une réaction qu'on entend très fréquemment, une remarque qu'on entend très fréquemment. Pourquoi le bon Dieu ne fait pas un grand miracle? Pourquoi est-ce que le bon Dieu n'apparaît pas aujourd'hui en 2022, fait un grand miracle pour convertir tout le monde? Regardez ce qui se passe dans ce verset, dans ce chapitre 11 de Saint Jean. Notre Seigneur Jésus-Christ fait un grand miracle, il va ressusciter un mort qui est dans le tombeau depuis 4 jours. Eh bien, et il le fait sciemment devant une grande foule. Il y a beaucoup de gens qui vont suivre notre Seigneur Jésus-Christ, qui marche après avoir rencontré Sainte Marie-Madeleine et Sainte Marthe, qui va marcher jusqu'au tombeau. Les gens suivent notre Seigneur Jésus-Christ, assistent à un miracle extraordinaire et malheureusement ne se convertissent pas. Là, on le voit très bien, malgré ce miracle extraordinaire, les pharisiens ne se convertissent pas. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour nous, c'est un avertissement pour nous. Même si le bon Dieu faisait aujourd'hui un très grand miracle, permettait un miracle extraordinaire, qu'un grand martyr au nom du bon Dieu fasse des miracles extraordinaires, est-ce que vous croyez que Macron et ses petits copains se convertiraient pour autant? Est-ce que vous croyez que Bergoglio se convertirait pour autant? C'est pas du tout certain. On voit très bien ici, avec Caïphe, Caïphe ne va pas se convertir. Pourtant, il n'est pas forcément idiot, mais il ne se convertit pas parce qu'il a peur des conséquences de la conversion. Vous voyez ? Mais c'est ça qui est terrible chez beaucoup de gens. On sent très bien qu'ils ont une peur bleue de la conversion. Peur totale de la conversion. Peur de devoir changer de vie. Au lieu d'accepter la vérité, ils luttent contre la vérité. Ouais, un commentaire des pères, donc en haut de la page 9, donc nous sommes à la fin du chapitre 11. Ce n'est pas que sa puissance lui fit défaut, il aurait très bien pu, s'il avait voulu, demeurer publiquement au milieu des Juifs, sans avoir rien à craindre. Mais il voulut apprendre par son exemple à ses disciples qu'il n'y a pour eux aucun péché à se dérébouer à la haine de leurs persécuteurs, qu'il vaut mieux échapper en se cachant à leur fureur sacrilège que de la rendre plus ardente en paraissant à leurs yeux. L'Église avait toujours interdit, au début de l'histoire de l'Église, pendant les grandes persécutions, l'Église avait interdit aux catholiques d'aller se livrer par eux-mêmes. D'aller se livrer par eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que, à ce moment-là, le bon Dieu est plutôt lui donner sa grâce. On peut tomber dans un péché de présomption. Et l'Église disait toujours à tous ces catholiques, pendant les persécutions terribles des premiers siècles, de 67 jusqu'à 313, 10 grandes persécutions, eh bien l'Église disait toujours la même chose, fuyez la persécution. Mais si vous êtes arrêté, Dieu vous donnera les grâces pour professer votre foi devant ses juges et devant ses imposteurs. Et c'est ce qui s'est passé. Mais l'Église demandait aux catholiques, ils ne voulaient pas que les catholiques aillent se livrer par eux-mêmes. Il y a eu des cas de catholiques qui n'ont pas écouté ce conseil, qui ont voulu aller se livrer par eux-mêmes, et qui ont malheureusement apostasé sous toutes les tortures. Tortures étaient épouvantables, il fallait voir les tortures qu'ils avaient. Et quand on lit ça dans le martyrologe, ça fait frémir. Avec des lames rougies au feu qui étaient appliquées sur le corps, du plomb fondu qui était jeté sur le visage, dans les yeux, et dans la bouche, etc. Des tortures épouvantables. On ne peut pas tenir des tortures pareilles sans une grâce particulière du bon Dieu. Et cette grâce, c'est un don de Dieu, attention. Donc il ne faut pas se dire une seule seconde, sans la grâce du bon Dieu, je serais capable de tenir le coup. Non. Ça, c'était une grande leçon pour nous. On entend beaucoup trop souvent cette parole-là. Mais moi, j'ai la foi et je n'aurai pas de problème. Je vais tenir le coup jusqu'au bout. Attention, méditez le péché de Judas. On tiendra le coup jusqu'au bout si Dieu nous en donne la grâce. Mais sans la grâce du bon Dieu, il n'y a pas un seul péché qu'a commis le voisin. Je ne suis pas capable de commettre moi-même. Donc, ne nous inquiétons pas outre mesure. Bon, les gens aussi paniquent en disant, monsieur l'abbé, on s'entend bien que les persécutions physiques vont arriver. C'est possible. Est-ce que les persécutions ne vont pas devenir de plus en plus physiques contre l'Église catholique? C'est tout à fait possible. Mais Dieu donnera la grâce, mais il donnera ses grâces au moment où on en a besoin. On n'a pas donné maintenant, on n'a pas besoin maintenant des grâces d'être supporté avec vaillance une persécution physique si les persécutions physiques ne sont pas encore là. Bon, on peut même discuter de savoir qu'est-ce qui est pire, les persécutions physiques qui durent relativement peu longtemps, ou des persécutions morales qui sont extrêmement longues et pénibles à supporter. Les gens, on le sent très bien, on en part dessus la tête. Ils nous disent, monsieur l'abbé, mais pendant combien de temps ça va durer? On est écrasé, on est humilié, les catholiques sont considérés comme le dernier des derniers. On voit très bien, dès qu'il y a une synagogue qui est profanée ou une mosquée qui est profanée, tout de suite le gouvernement monte au créneau pour vilipender les gens qui ont fait ça, bien sûr, l'extrême droite, évidemment, en accusant l'extrême droite d'être les causes de tous les malheurs. Mais par contre, si c'est une église catholique qui est profanée, Le gouvernement ne monte pas au créneau, bien sûr que non. Il y a parfois trois lignes, un trois-filets de trois lignes dans le petit journal local, et puis c'est tout. Et on sent très bien, ceci nous prouve une fois de plus que l'Église catholique est la véritable Église. Parce que c'est cette Église-là qui est profanée, cette Église-là qui est persécutée. Autre texte d'Origène, page 9, dans le sens analogique, on peut dire que Jésus demeurait avec confiance au milieu des Juifs, alors que le Verbe divin habitait avec eux dans la parfaite personne des prophètes. Mais il s'en est retiré, le Verbe de Dieu n'est plus avec les Juifs. Donc, notre Seigneur Jésus quitte son peuple, parce qu'il va changer de peuple. Il va amener avec lui la partie de son peuple qui veut vraiment se convertir. Dieu merci, il y a quand même beaucoup de conversions du peuple juif au début. Mais on voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ quitte son peuple. C'est la fameuse parole qui est dans l'Évangile. Pour moi, qu'il est dit, cette parole, elle est extraordinaire de vérité, que son sang retombe sur nous et sur la tête de nos enfants. Que son sang retombe, le sang de la passion retombe sur nos têtes et la tête de nos enfants. Ben, c'est exactement ce qui se passe, malheureusement. Vous voyez ? Donc, il faut se maintenir dans l'humilité, parce que quand on voit tous les juifs, le peuple juif qui avait reçu tant de grâces extraordinaires en assistant à ces miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, ils avaient vu aussi notre Seigneur Jésus-Christ qui allait remplir toutes les prophéties dans l'Ancien Testament, mais ils ne se convertissent pas. Vous voyez, donc, attention, n'oubliez pas qu'un pont peut prendre les deux sens. On ne peut pas avoir un pont qui mène de cette vie à la vie divine. On peut malheureusement prendre le pont dans l'autre sens et passer de la vie divine à la vie terrestre. Lorsqu'un pécheur se présente au confessionnal et fait une bonne confession, il passe le pont dans le sens terre-ciel. Mais lorsqu'après avoir quitté le confessionnal, ce même pécheur retombe dans le péché, hélas, ce qui peut nous arriver à tous, à moi le premier, eh bien là, il va repasser le pont, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Il va repasser le pont dans le sens ciel-terre. Le pont est malheureusement utilisable dans les deux sens. Mais on n'est pas confirmé en grâce. Les anges au ciel sont maintenant confirmés en grâce. Ils n'étaient pas à leur création. Lorsque les anges ont été créés, ils sont passés par une épreuve. Et un tiers des anges a refusé l'épreuve, s'est révolté contre Dieu. C'était la chute des mauvais anges au ciel, la création de l'enfer. Mais maintenant, les anges au ciel sont confirmés en grâce. Les gens qui sont au ciel, les élus du ciel, sont confirmés en grâce. Mais pas nous. Pas encore. Donc il faut vraiment se maintenir dans l'humilité. Rappelez-vous cette phrase magnifique, cette prière magnifique de saint Philippe Néri que je vous ai souvent citée. « Ô Philippe, ô Seigneur, gardez Philippe entre vos mains parce que sans votre grâce, d'ici ce soir, je suis suffisamment bête pour devenir juif ou mohammedan. » Vous voyez ? Donc ici, on voit très bien ce texte d'Origène qui dit que notre Seigneur se retire et le Verbe de Dieu quitte les Juifs. Et plus exactement, va prendre avec lui les Juifs qui veulent se convertir, mais malheureusement, beaucoup ne veulent pas se convertir. C'est la même chose pour nous. On voit très bien, parmi les gens qu'on côtoie, certains cherchent heureusement Dieu, ils se convertissent, mais parfois ça ne dure pas, malheureusement. Malheureusement, j'ai eu quelques cas douloureux comme ça, j'ai rencontré dans ma vie de prêtre, de gens qui se sont convertis avec la grâce du bon Dieu, ils ont fait une bonne confession, mais malheureusement, ça n'a pas duré. Ils sont retournés dans leur boue, comme le texte sacré l'explique. Donc c'est le retour de la truie qui retourne à son vomi. Le chien qui retourne à son vomi, la truie, le cochon qui retourne dans la fange, dans la bauge, pour se vautrer dans la boue alors qu'il en a été sorti, que Dieu l'avait complètement nettoyé. Heureusement, c'est quand même assez peu fréquent. Vous voyez, mais il y a un manque, surtout je le voyais très bien quand j'étais dans la fraternité sacerdotale Saint-Bilis, on voyait très bien qu'il y avait un certain nombre de jeunes surtout qui refusaient une conversion complète. Ils considéraient que d'aller à la messe le dimanche c'était suffisant, vous voyez. Il y avait un manque de persévérance, un manque de recherche de la perfection. Ils voulaient bien se convertir, mais pas complètement. Ils voulaient bien se convertir au niveau intellectuel, au niveau de la foi, mais au niveau de la pratique de la foi dans la vie de tous les jours, changer de vie, changer d'état de vie, bon, ben ça, il ne voulait pas toujours. Dans certains cas, il l'acceptait, dans certains cas, il le refusait. Et j'avoue, je dois reconnaître que dans les milieux cédévacantistes, la foi est prise sérieusement à pleine main par nos fidèles. D'ailleurs, je pense que ça vient aussi des sacrifices que sont obligés de faire nos fidèles. C'est une chose qui m'a beaucoup frappé, je vous l'ai déjà sans doute dit. Je vois dans la fraternité sacerdotale Saint-Pilis actuellement qu'il y a de plus en plus de maisons ouvertes, de plus en plus de prieurés, de plus en plus de prêtres, de plus en plus d'écoles, et de moins en moins de vocations. Ça s'en dit long. Alors qu'au contraire, dans les milieux cédévacantistes, nous, Monaco, on est quand même très peu nombreux, mais nos fidèles font souvent, ils doivent vraiment toucher leur portefeuille pour venir assister à la messe dimanche, hein. Et prendre beaucoup sur leur temps pour venir à la messe. Hein. Beaucoup de mes fidèles, même certains qui viennent tous les dimanches, hein, qui sont obligés de faire tous les dimanches aller-retour 3 heures de voiture. Hein. 3 heures de voiture, à demi plein, vu le prix du gasoil ou du carburant aujourd'hui, ça laisse quand même rêveur. Donc c'est des gens jeunes qui n'ont pas des. Ils gagnent pas des millions. Bien, ils prennent la voiture, ils font 3 heures de voiture, aller-retour le dimanche, 1 heure et demie pour venir, 1 heure et demie pour repartir, eh bien, parce qu'ils ont besoin des sacrements. Alors, il est évident que quand les gens font des sacrifices pareils, c'est des gros sacrifices, eh bien, leur foi est beaucoup plus forte que des jeunes, surtout dans les grandes villes. Je vois la fraternité sacerdotale Saint-Pilis, c'était très clair. Dans les grandes villes, il y avait des prieurés, des écoles un peu partout, eh bien, les jeunes n'avaient pas fait beaucoup d'efforts. Je l'avais déjà vu autour des années 80, j'étais jeune prêtre. Il fallait faire des gros sacrifices pour assister à la messe traditionnelle le dimanche, de la part des fidèles, parce qu'il y avait peu de centres de messe, peu de chapelles ouvertes. Il fallait prendre la voiture, faire des kilomètres et des kilomètres, arriver longtemps à l'avance, préparer la salle, souvent une salle d'hôtel louée pour la circonstance. Il fallait tout préparer, installer l'hôtel, installer les chaises, préparer tout, aller chercher le prêtre à l'aéroport, etc. C'était une grosse exigence. Mais quand vous avez la messe traditionnelle à quelques kilomètres de chez vous, il suffit de partir 10 minutes avant et hop, on est devant la chapelle. Évidemment, ça entraîne malheureusement dans bien des cas des fois plus superficielles. Si au contraire quelqu'un est obligé de faire 1 heure et demie de voiture pour venir à la messe, bien, il va comprendre plus facilement la grandeur de la messe. Reprenons les textes au milieu de la page 9. Notre Seigneur se rendit dans une petite ville qui était près du désert. Alors le prophète a dit, les enfants de la femme abandonnée au désert sont plus nombreux que les enfants de l'épouse. Cette ville s'appelait Éphrem, c'est le verset 54. C'est pourquoi Jésus ne se montrait plus ouvertement parmi les Juifs, mais il s'en alla dans une région voisine du désert, dans une ville nommée Éphrem, et demeurait là avec ses disciples. Donc, il vient de faire ce miracle extraordinaire, et notre Seigneur va quitter la foule qui l'encense, pour aller se réfugier dans le désert, une région voisine du désert. Bon. Cette ville s'appelait Éphrem, qui veut dire la fertilité, car Jésus s'y attarde avec sa grâce abondante. Éphraïm, fut le frère de Manassé, c'est-à-dire le peuple ancien livré à l'oubli, car c'est après que ce peuple eut été livré à l'oubli et abandonné que l'abondance sortit du milieu des nations. Donc notre Seigneur quitte ainsi la Judée et vient dans la terre de tout l'univers auprès de l'église déserte et abandonnée, dont le nom veut dire cité féconde. Il y demeure avec ses disciples. Notre Seigneur Jésus-Christ donc quitte la foule pour aller dans le désert. C'est le symbole de la nécessité, pour avoir une conversion profonde, de quitter le monde, quitter au moins l'esprit du monde. On voit tous ces religieux, ces cénobites, ces religieux extraordinaires dans toute l'histoire du monde, qui vont quitter le monde de leur temps, pour aller s'enfermer dans les monastères, pour pouvoir suivre, avec beaucoup plus de facilité, suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Bon, attention, le bon Dieu ne demande pas ça à tout le monde. Ça veut dire que tout le monde doit quitter la vie du monde pour aller s'enfermer dans les couvents, dans les monastères. Il faut avoir une vocation pour ça. Mais il faut au moins quitter la foule qui représente le monde moderne, le monde qui suit les trois concupiscences de la chair, des yeux et de l'orgueil, pour aller suivre notre Seigneur Jésus-Christ au désert. Suivre notre Seigneur Jésus-Christ au désert, ça veut dire pratiquer l'esprit de pénitence. Ça veut dire le jeûne, ça veut dire l'aumône, ça veut dire la prière, pour justement quitter la facilité du monde moderne. D'un côté, vous avez le monde moderne avec les trois concupiscences, les yeux, la chair et la concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et l'orgueil. Et de l'autre côté, vous avez le monde de la foi catholique. Et là, c'est les trois autres symboles, le jeûne, la prière et l'aumône. Donc l'aumône contre la concupiscence des yeux, la chair, l'aumône contre la concupiscence des yeux, le jeûne contre la concupiscence de la chair, et la prière contre la concupiscence de l'orgueil. Il ne faut pas oublier ça, l'église catholique, c'est une église de combat. Et le combat que bon Dieu nous demande, c'est de quitter l'esprit du monde. Alors, ça ne veut pas dire forcément, encore une fois, que je dois aller au fond du désert, mais au moins, il faut que dans mon esprit, j'ai quitté l'esprit du monde et que je vive dans le monde sans être contaminé par cet esprit du monde, ce qui n'est pas facile du tout tous les jours. Les Juifs cherchaient donc Jésus-Christ avec de mauvaises intentions, mais nous le cherchons en restant dans le temple, à nous consoler, à nous exhorter mutuellement. Il manque une virgule, encore une faute, que je corrige. Et à demander qu'il se rende à notre jour de fête et nous sanctifie par sa présence. Donc, tout le monde cherche Dieu. Mais il y en a qui cherchent Dieu, c'est une belle phrase des pères de l'Église, les Juifs cherchaient Jésus-Christ avec de mauvaises intentions. C'est terrible ça. Je cherche notre Seigneur Jésus-Christ avec de mauvaises intentions. Caïphe cherchait notre Seigneur Jésus-Christ avec l'intention de le tuer. Pilate cherchait notre Seigneur Jésus-Christ mais avec l'intention de ne pas se mouiller pour le protéger. Au contraire, il y a ceux qui cherchent notre Seigneur Jésus-Christ, qui veulent rester dans le temple pour nous exhorter mutuellement et demander à notre Seigneur Jésus-Christ de venir nous sanctifier par sa présence. Vous voyez ? Donc chercher notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la première étape, mais ce n'est pas l'étape définitive. Chercher notre Seigneur Jésus-Christ pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Chercher notre Seigneur Jésus-Christ pour le refuser, c'est la catastrophe. Et c'est exactement ce qui se passe, on le voit très bien, avec les politiciens juifs de l'époque qui cherchent notre Seigneur Jésus-Christ pour le faire mourir. C'est le verset 53. À partir de ce jour, les pharisiens pensaient donc à le faire mourir. Donc ils vont envoyer des espions pour expliquer tout ce qu'il dit, trouver un moyen de la faire arrêter et le faire condamner. Donc Éphraïm, autre symbole donné par les pères de l'Église, donc au verset 54, donc il est dit que notre Seigneur Jésus-Christ va s'en aller dans une ville nommée Éphraïm, une région voisine du désert, et Éphraïm représente l'Église des gentils. Éphraïm est une ville proche du désert, symbole de l'âme sainte qui prend le temps de la prière dans la solitude, d'où la nécessité de s'éloigner de l'esprit du monde pour pouvoir suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas possible de garder la foi catholique sans quitter l'esprit du monde. Nul ne peut servir de maître à la fois. On ne peut pas à la fois avoir tous les honneurs du monde et les honneurs du ciel, ce n'est pas possible. Il faut faire un choix. Et donc ça, c'est des choses quand même extrêmement importantes. Il faut prier, parce que ce sont des grâces. Il ne faut pas croire que nous serons capables, par nos propres forces, à la force de notre poignet, que nous serons capables d'arriver à conserver la foi. Nous conserverons la foi si le bon Dieu nous donne la grâce de la conserver. C'est la prière très belle. Seigneur, j'ai la foi, mais augmentez ma foi. Seigneur, j'ai l'espérance, mais augmentez mon espérance. Seigneur, j'ai la charité, mais augmentez ma charité, parce que sans vous, je ne suis capable de faire que des bêtises. Donc il faut bien réfléchir à tout ça, et surtout beaucoup prier la Sainte Vierge. Parce que là, celle qui nous maintient au pied de la croix, c'est notre Sainte Vierge Marie. On voit très bien que Saint Jean, notre Sainte Vierge Marie, elle a littéralement pris Saint Jean par la main, par la peau du cou, parce que tous les apôtres s'étaient enfuis, elle est allée chercher Saint Jean, parce qu'elle voulait que l'apôtre que Jésus aimait soit là. C'est pour cela que Saint Jean va être le protecteur attitré de la très Sainte Vierge Marie. Vous voyez ? Voilà, nous allons terminer par une prière. Prochaine fois, Dieu aidant, nous commençons le chapitre 12 de Saint Jean. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Aussi, je précise que les retraites sont pleines maintenant pour le mois de septembre et le mois d'octobre. J'ai encore deux retraites à prêcher. Et les six chambres que j'ai pour prêcher les exercices sont pleines. Donc, je n'accepte plus personne en retraite cette année.